êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Il vous est présenté par Nanit Talani. Les femmes enceintes qui développent la pré-éclampsie sont aussi susceptibles d'être victimes de l'éclampsie. Celle-ci se manifeste par l'apparition d'une crise convulsive généralisée dans un contexte d'hypertension gravidique pendant la grossesse ou pendant la période postpartum. L'éclampsie survient donc habituellement comme l'une des redoutables complications majeures de la pré-éclampsie. C'est une urgence vitale pour la mère et l'enfant à naître, car elle peut inclure des convulsions ou un coma. En Afrique, l'éclampsie survient chez plus de 16% des femmes pré-éclamptiques. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les femmes les plus à risque? Quelles peuvent être les mesures préventives pour les grossesses suivantes concernant les femmes qui ont déjà développé une éclampsie? Quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et le bébé?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Elle peut faire un AVC, des délires, une rupture capsulaire, du foie. Elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie, va être cérébrale. Donc, elle peut même mourir. Sur le bébé, là, c'est la mort fétale intra-utérine.
Pour répondre à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique, nous recevons au cours de notre programme Votre Santé, Votre Avenir, le docteur Maurice Soubou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ensuite, dans la deuxième partie de notre programme, nous vous proposerons Carnet de santé avec Ninor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici, chères auditrices et chers auditeurs, le moment de suivre notre interview avec le docteur Maurin Soungou. Docteur Maurin, bonjour.
Bonjour Manique.
Merci d'accepter de répondre à nos questions concernant l'éclampsie. Nous allons démarrer avec cette question de deux de nos auditeurs, Noël Garcive le meilleur et Baron Jamal Laurent. Les deux veulent savoir qu'est-ce qui provoque l'éclampsie chez la femme enceinte.
Pour arriver à ce qui provoque l'éclampsie, je commence d'abord par vous dire ce qu'est l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une complication de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie que nous avons définie la fois passée comme étant une association d'une hypertension artérielle où on a le chiffre tensionnel supérieur à la systolique supérieure à 140 et la diastolique supérieure à 80, avec une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour et l'apparition des édèmes. Donc, c'est tout à fait triade qu'on définit la pré-éclampsie. Mais dans certaines sociétés savantes, il y a certains éléments spécifiques dont on avait parlé. Alors, cette pré-éclampsie, que c'est compliqué en une éclampsie? Une éclampsie, c'est quoi? C'est quand une personne fait une pré-éclampsie et que ça survient l'apparition de convulsions. Donc, chez une pré-éclampsie, quand elle convulse, c'est ça l'éclampsie.
Ok, mais docteur Maurin, comment survient-elle?
Ça survient comment? On a dit la fois passée pour la pré-éclampsie qu'il y avait une hypertension. Cette hypertension est due à quoi? Il y a des enzymes comme la prostacycline qui est une enzyme de vasodilatation avec une thromboxane A2 qui est une enzyme vasoconstrictive. Alors, dans des grossesses normales, il y a eu un équilibre de ces deux enzymes. Maintenant, en cas de pré-éclampsie, il y a un déséquilibre. Il y a plus de thromboxane A2 que de prostacycline. Alors, le thromboxane entraîne une agrégation plaquettaire au niveau du vaisseau artériel. Alors, cette agrégation-là, c'est à ce qu'il y ait une hypoperfusion. Donc, le cerveau, tout comme on parlait de placenta maternel, sera hypoperfusé.
Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, docteur?
Alors, dès que le cerveau est hypoperfusé, ça tombe dans un état d'anoxie cérébrale. Il y a donc absence d'oxygène au niveau du cerveau, comme ça que le corps réagit en convulsion.
Est-ce qu'une femme qui n'a pas fait de pré-éclampsie peut quand même développer une éclampsie?
Non. Alors, chez une femme qui n'a pas fait l'après-éclampsie, on peut faire une éclampsie. Une éclampsie, c'est une des complications phares de l'après-éclampsie. Ça ne concerne que les femmes enceintes, puisque c'est une maladie du placenta. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un défaut de vascularisation des artérioles spiralées au niveau du placenta. Donc, la seconde invasion, là, c'est défaut. Comme ça que le placenta est hypoperfusé. Cette hypoperfusion placentaire, or le placenta c'est l'organe d'échange maternel et fœtal, ça fait que ça libère les enzymes dont je viens de parler, qui sont les responsables de toutes les conséquences.
D'accord. Est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui développent ou qui ont développé l'éclampsie?
Oui, il y a toujours des patientes qui développent l'éclampsie. Comme nous avions dit, le patient qui ne vient souvent pas au CPN, aux consultations prénatales, puisque avant d'arriver à cette éclampsie-là, il y a des prodromes, quelques signes qui annoncent l'éclampsie, avant que la femme commence à convulser. Donc, elle vient, elle vous dit, ou lors d'une consultation, vous voyez que la personne a des flous visuels, une diplopie, une vision double, des acouphènes, ou qu'elle ait une épigastralgie en barre. Avec ces signes-là, ça vient juste quelques jours avant l'apparition de convulsions.
Que faites-vous en ce moment-là?
Alors, quand une dame vous vient comme ça, vous savez prévenir, vous lui donnez le sulfate de magnésie qui prévient l'arrivée de convulsions. Alors, une femme qui ne fait pas de CPN, et puis vu que ce n'est pas vulgarisé, quand elle fait une pré-éclampsie et qu'elle ne vient pas à l'hôpital, elle va faire certainement une éclampsie. On en a eu des cas et plusieurs cas, nous pouvons dire, qui viennent de milliers un peu ruraux. Les dames qui ne connaissent pas de ces peines, quand elle fait par exemple une éclampsie, elle est en train de convulser ou elle a une vision double pendant la grossesse, elle développe ces prodromes-là. Vu qu'elle vit dans un milieu rural, on est en train de diaboliser ça. On dit que non, c'est une maladie, c'est un sort qu'on lui a jeté ou quoi. C'est que ça se passe dans le milieu rural. Alors, quand on vous amène ces gens des dames, elle vous vient dans un tableau tonico-clonique avec des fortes convulsions où elle est même déjà entrée dans la dernière phase, là, la phase 4, la phase des comas, et pour la récupérer, c'est un peu difficile. On en a eu des cas comme ça, de dames qui ne sont pas compliantes au CPN, aux consultations prénatales, ou au traitement qu'on leur donne de la pré-éclampsie. Quand vous ne suivez pas bien ces traitements, vous risquez de tomber dans cette complication.
D'accord. En dehors des convulsions, y a-t-il d'autres signes qui peuvent caractériser une éclampsie?
Oui, c'est ce que nous appelons les prodromes. Donc, la femme, avant qu'il y ait survenu de convulsions, la femme vous dira qu'elle a de troubles de vision. Elle peut avoir une vision double, une photophobie, ou soit elle vous dit qu'elle a des acouphènes, qu'elle entend des bruits dans les oreilles. Une autre vous dira qu'elle a des céphalées occipitales. Chez d'autres encore, ce n'est pas ces signes-là, c'est une épigastralgie là, en bas. Alors, quand une dame vous vient avec ces signes, si c'était une pré-éclampsie, qu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie, vous dites que là, c'est l'éclampsie qui s'annonce, et vous prévenez ça en donnant du sulfate de magnésie. Chez des dames, quand elles ont ces prodromes, ces signes-là, qui ne reçoivent pas de sulfate de magnésie, elles vous viennent dans un tableau de coma ou dans un tableau tonico-clonique avec de fortes convulsions là. Et à ce moment-là, vous devez couper ça avec le diazépam et ou le phénobarbital. Ensuite, vous donnez le sulfate de magnésie. Et si elle était enceinte, vite évacuée. Cette grossesse-là, vous la couchez par césarienne et commencez à l'observer en soins intensifs. Ouais. Quand vous faites une éclampsie comme ça, ça peut se compliquer. Il y a plusieurs complications qui peuvent arriver puisque le cerveau n'est plus oxygéné.
Quelles sont les autres conséquences qu'une telle situation peut entraîner?
Alors, certaines autres peuvent faire même jusqu'à faire l'AVC, d'autres jusqu'à en mourir, puisque tu feras une hémorragie cérébrale. À force de convulser, le petit vaisseau peut se rompre et tu commences à saigner au niveau de la tête, une hémorragie cérébrale, faisant un AVC. Chez d'autres, elles meurent même comme ça.
Vous avez répondu partiellement à une question de Jérémy Moubiaye, qui s'intéressait à la prise en charge de l'éclampsie. Quelles peuvent être les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et sur le bébé?
Sur le bébé, Là, c'est la mort fœtale intra-utérin. Si elle commence à convulser, dans les minutes qui suivent, vous enlevez le bébé. Puisque comme la maman n'est pas suffisamment perfusée, ce qui fait que l'enfant aussi sera en hypoperfusion, il va souffrir jusqu'à mourir. Comme le cerveau, c'est l'organe noble, il n'est plus perfusé, c'est que l'enfant aussi, là, il n'est plus perfusé. Alors, il aura une souffrance fœtale jusqu'à ce que l'enfant peut mourir. Si vous l'enlevez à temps, vous faites une césarienne à temps, là, vous pouvez sauver l'enfant.
On peut bien voir que l'éclampsie a des conséquences très désastreuses sur le bébé. Et qu'en est-il de la mère?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Comme j'ai dit, elle peut faire un AVC. Le fait que le cerveau soit privé pendant longtemps d'oxygène, elle peut faire des délires. Elle peut faire une rupture capsulaire du foie. Elle peut faire. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent arriver chez la maman. Donc, elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie là, intracérébrale, être un poids pour la société. D'autres, elles peuvent même mourir.
Le bébé, pour le sauver, l'unique solution demeure
une césarienne
rapide.
Oui, oui, une césarienne en urgence. Quand les convulsions commencent, même si la dame a déjà commencé à convulser il y a plus de 30 minutes et que la dame vous vient après en catastrophe, là, l'enfant a déjà souffert et est déjà parti. Là, vous pouvez même faire la césarienne juste pour sauvetage maternel et l'enfant sera déjà décédé.
Quand une femme a déjà fait une éclampsie, cela signifie-t-il qu'elle va encore en être victime pour les grossesses à venir?
Chez une femme qui a déjà fait une éclampsie, elle a vraiment un haut risque de refaire ça. Mais ce n'est pas pour toutes les grossesses. Dans les consultations prénatales, nous pouvons prévenir chez ces dames pareilles. Quand elle vient comme ça, vous lui donnez de l'aspirine junior, question de prévenir, et vous faites une surveillance de sa tension artérielle. Quand il n'y a pas ces mesures, elle peut le refaire. Elle est vraiment à haut risque de refaire encore une pré-éclampsie ou une éclampsie. Donc elle peut le faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après l'accouchement, elle peut refaire cette éclampsie-là. Lors des grossesses ultérieures, disons.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour éviter que les femmes fassent l'éclampsie pendant la grossesse ou après la grossesse, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez?
Les mesures préventives que nous mettons en place, premièrement, c'est quand la dame a déjà fait une pré-éclampsie. Quand c'est sévère ou modéré, vous donnez directement le sulfate de magnésie. Quand vous le mettez en perfusion par 24 heures, ça couvre la dame, vous verrez que ça prévient les convulsions en fait. Donc la dame ne va pas convulser. Et pour vous traiter son hypertension là, et vous lui donnez de l'aspirine junior. Quand vous observez ça et vous faites une surveillance là avec expectative armée, chez cette dame-là, elle ne fera pas d'éclampsie. Mais lorsque vous lâchez ou lorsqu'elle n'a pas fait ses consultations prénatales, elle n'a pas été éduquée pour mieux suivre l'évolution de sa grossesse ou mieux la surveiller, là, elle peut être susceptible de le refaire.
Y a-t-il des femmes enceintes qui sont plus à risque par rapport à d'autres?
Oui, les femmes à risque, c'est les femmes qui peuvent faire une pré-éclampsie ou une hypertension artérielle surajoutée. Donc, la femme qui était hypertendue avant la grossesse, elle peut le développer. Ou une femme qui a fait une pré-éclampsie ou chez certaines femmes avec obésité ou on peut dire ça, avec obésité, ils sont susceptibles à faire ça. Ou diabète gestationnel. Chez une femme qui a fait une diabète gestationnelle ou qui est diabétique, et c'est fort probable qu'elle fasse ça. Ce genre de grossesse, nous les surveillons dès les débuts.
Okay. Docteur Sungu, si nous prenons 100 femmes que vous suivez, il y en a combien, par exemple, qui pourraient développer une éclampsie?
Chez les femmes que nous suivons, par exemple, si nous prenons cette année 2021, depuis le début, j'ai déjà eu une dame seulement qui a fait la pré-éclampsie. Il y avait la non-observance du traitement qu'on donnait, le traitement anti-hypertenseur qu'on lui donnait, puisqu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie. Quand nous lui avons demandé de prendre le produit, de surveiller la tension, si elle pouvait le prendre à la maison, elle avait ces moyens-là, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, on l'avait amenée dans un état tonico-clonique. Après, elle a fait même un AVC. Depuis 2021, janvier, il y a une dame, mais ce n'est pas très fréquent en ville ici. C'est pas très fréquent puisque nous faisons des CPN, mais les femmes qui nous viennent de milliers un peu réguliers, rirales, là, c'est là que c'est trop fréquent. Elles ne font pas de consultation prénatale.
Mais est-ce que cette femme, elle a pu garder son bébé?
Oui. Donc, quand elle est venue, elle venait dans les 30 minutes qui suivaient la première convulsion et nous avons fait une césarienne d'urgence. Et là, elle est en train de récupérer ses membres petit à petit. Ah. C'est au mois de février, mais là, elle essaie de marcher. Et vous voyez quand même le séquelle d'AVC là.
C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette femme, malgré l'éclampsie, ait pu récupérer son bébé. Vous venez aussi de dire, docteur, que les femmes rurales sont celles qui sont le plus susceptibles de développer une éclampsie parce qu'elles ne font pas le suivi prénatal comme il se doit. Quels moyens de sensibilisation mettez-vous en œuvre pour ces femmes-là?
D'ailleurs, c'est le gouvernement qui met les moyens. Le gouvernement met le moyen en jeu pour que le médecin vulgarise cela et font des CPN gratuitement. Que le médecin aille même dans des milieux réguliers afin de voir ces femmes, tout ça, c'est le gouvernement qui doit les faire. Mais nous, dans notre milieu, le gouvernement ne le fait pas encore. C'est que nous-mêmes, le médecin, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas le faire de lui-même. Ça, ce sont des structures qui viennent en appui à des centres de formation médicale pour vulgariser cela.
À votre avis, docteur, qu'est-ce qui doit donc être fait pour mener une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation, afin d'éviter des situations qui conduisent à des drames comme l'éclampsie?
Pour éviter qu'on en arrive là, pour nous, on demande aux bienfaiteurs, d'abord premièrement au gouvernement congolais, ou africain, disons, de soutenir leur structure sanitaire. Le gouvernement doit nous soutenir dans cette démarche-là. Et à part le gouvernement, le bienfaiteur, les ONG qui peuvent venir et soutenir, puisque les médecins sont toujours disponibles pour vulgariser, mais faute de moyens, on ne sait pas donner plus que ce que nous faisons.
Ok, pour terminer, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les femmes enceintes, mais aussi à leur entourage? Parce que je crois que l'entourage a aussi un rôle à jouer.
Oui, l'entourage a un rôle à jouer. Surtout quand une femme est enceinte pour la première fois ou pour la deuxième fois, quand elle vient souvent, ce genre de femmes-là, elles vous disent « Non, ma maman m'a dit ceci. Oh, telle qui avait eu une grossesse avant moi m'a dit ceci. » Alors, pour cet entourage-là, nous disons que quand une femme a une grossesse, il faut lui demander d'aller à l'hôpital d'abord, premièrement, pour qu'on confirme cette grossesse. Deuxièmement, qu'on fasse un calendrier de suivi de cette grossesse-là. Ça, c'est pour l'entourage. Ils doivent encourager nos femmes à venir dans des structures sanitaires.
Et à la femme enceinte?
Pour la femme enceinte elle-même, qu'elle vienne en consultation, c'est tout. Qu'elle vienne en consultation et qu'elle apprenne à prendre et à prélever la tension, l'automesure, là, c'est une bonne chose. Quand elle se reconnaît hypertendue ou quand elle commence à développer l'hypertension au cours de la grossesse.
Ok, merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, Nanette.
C'était notre entrevue avec le docteur Morin Sungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Cinquantenaire et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Maintenant, place à Carnet de santé avec Lina Moutou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, les premières vaccinations contre le COVID-19 d'enfants de 5 à 11 ans ont débuté aux États-Unis. Comment évaluer les risques et les avantages de la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants? On en parle avec un expert. Et combien d'eau boire au quotidien pour rester hydraté? La réponse dans Conseils et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les enfants aux États-Unis font la queue pour recevoir le vaccin anti-Covid. La Food and Drug Administration américaine a approuvé une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, fabriqué par Pfizer BioNTech. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, le CDC, la plupart des enfants atteints du COVID-19 ont des symptômes moins graves que les adultes. Cependant, ils peuvent développer un syndrome inflammatoire multisystémique, une complication potentiellement grave et dangereuse qui provoque une inflammation des organes vitaux. Ici aux États-Unis, certains parents prennent des mesures pour prévenir le COVID-19 chez leurs enfants. Bejum Domsen, Ersos de la VOA, a rendu visite à un centre de vaccination à Fairfax, en Virginie, près de Washington, D.C. Regardez.
Aux États-Unis, les enfants peuvent désormais recevoir leur premier vaccin anti-COVID-19 dans des centres comme celui-ci à Fairfax, en Virginie. Plus tôt ce mois-ci, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont approuvé une recommandation selon laquelle les enfants de 5 à 11 ans peuvent recevoir une dose pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech. Présentement, les premiers des 28 millions d'enfants éligibles aux États-Unis reçoivent leur première dose.
Cela ne fait pas mal. J'ai su que c'était fini 5 minutes après.
Je l'ai un peu senti, mais ça n'a pas fait mal.
Le groupe Pfizer-BioNTech dit que le vaccin est efficace à environ 91% pour ce groupe d'âge. Les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un tiers de la dose fournie aux adultes et aux autres enfants de plus de 12 ans. Le taux de la dose est suffisamment puissant pour déclencher une forte réponse immunologique, tout en étant suffisamment bas pour éviter les effets secondaires indésirables. Mais certains parents ne sont toujours pas sûrs de suivre la recommandation. Selon une étude de la Kaiser Family Foundation, publiée en octobre, près de deux tiers des parents ayant des enfants âgés de 5 à 11 ans ont déclaré attendre avant de faire vacciner leurs enfants.
Je leur dirais de faire des recherches. Personnellement, je pense que c'est plus sûr de recevoir le vaccin, mais ça n'engage que moi. Je ne veux pas que mes enfants aient le COVID, alors je me sens bien que nous soyons sur le point d'être complètement vaccinés.
Près de 84% des habitants du comté de Fairfax ont reçu au moins une dose du vaccin anti-COVID. À ce jour, il n'y a aucune donnée disponible pour les enfants de 5 à 11 ans.
Le docteur Jessica Nash est pédiatre à l'hôpital pour enfants de Washington, D.C. Elle nous en dit plus sur la vaccination COVID-19 pour les enfants.
Avec cette deuxième vague de variant Delta, nous avons commencé à avoir plus d'enfants malades. Cela a donc été un moment propice pour offrir une certaine protection à une population qui pourrait potentiellement tomber malade avec le coronavirus. Ce qui s'est passé avec le vaccin Pfizer, c'est que les essais cliniques montrent que cette tranche d'âge, entre 5 et 11 ans, n'avait besoin que d'environ un tiers de la dose de ce que nous avons donné aux adultes, quel que soit leur âge. Donc ce n'est vraiment pas lié à votre taille à 5 ans ou à votre taille à 11, mais c'est à propos de la réponse immunitaire. Il y a une certaine confusion. Donc cette partie n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que la réponse immunitaire que les enfants ont avec le dosage à un tiers est suffisamment adéquate, quoi qu'il en soit, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce que nous savons, c'est que vous obtenez une certaine immunité, ou ce que nous appelons une immunité naturelle, en attrapant le virus réel. Donc, si votre test est positif et que vous avez le virus, vous aurez une immunité naturelle. Le problème est que l'immunité diminue plus rapidement que si vous receviez le vaccin réel. Lorsque le rappel a été mis en place, nous avons découvert qu'après plusieurs mois, les personnes âgées et celles qui étaient immunodéprimées avaient besoin d'un vaccin supplémentaire pour pouvoir bénéficier d'une plus grande immunité contre le coronavirus. La FDA a déclaré que nous n'allions pas laisser Pfizer prendre des raccourcis en ce qui concerne les essais cliniques pour ce vaccin. L'avantage de l'étude sur les enfants de 5 à 11 ans, c'est qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Et généralement, lorsque nous recherchons des effets secondaires, ils ont généralement tendance à se produire au cours des deux premières semaines, des premiers mois. Et avec les essais cliniques, nous sommes au-delà de ce premier mois ou au-delà de ces deux mois où nous serions à la recherche de zones où s'il y avait des effets secondaires graves. Lorsque vous recevez un vaccin, votre corps développe une réponse immunitaire. Et cela signifie que votre corps reconnaît qu'il y a là quelque chose que nous voulons que le système immunitaire reconnaisse.
Ainsi, vous pourriez avoir de la fièvre ou certaines personnes, les adultes comme les enfants, peuvent être un peu fatigués pendant quelques heures après le vaccin. Mais tout cela, nous nous attendons généralement à le voir. Tout comme pour les adultes, ils reçoivent une dose, puis 3 semaines plus tard, ils sont censés recevoir leur 2e dose de vaccin. La meilleure protection que nous puissions offrir est de faire vacciner les enfants contre le COVID-19. Les vaccins, surtout maintenant que nous mettons nos enfants plus à risque en les ayant à l'école, si vous avez un enfant qui a un problème médical complexe, il est fort probable que le spécialiste recommande qu'il se fasse vacciner car il présente un risque encore plus élevé. Et s'il y a une question ou une préoccupation, ce serait certainement quelque chose à parler avec votre pédiatre ou spécialiste. Nous avons des enfants asthmatiques, des enfants atteints de cardiopathie congénitale, des enfants atteints de drépanocytose, en particulier des enfants qui sont immunodéprimés. Nous encourageons à la fois le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le COVID-19. Ils peuvent tous deux être administrés le même jour selon la préférence des parents.
Preventative medicine is what we do best in pediatrics to keep our kids safe. And we want to continue to do that.
Nous avons demandé à certains parents de la communauté africaine ici aux États-Unis s'ils prévoyaient de vacciner leurs jeunes enfants contre le COVID-19. Voici ce qu'ils ont répondu.
À mon avis, il est préférable de vacciner les enfants pour les mettre à l'abri de la pandémie. Parce que c'est vrai que les scientifiques ne nous ont pas dit toute la vérité sur la maladie. Il est préférable de mettre les enfants à l'abri. Rien ne prouve qu'ils ne peuvent pas être contaminés autant que les adultes. Bon, je crois 5 ans, c'est très tôt, à partir de 10 ans, parce qu'à 10 ans, il a contact avec les adultes et d'autres enfants. Il va à l'école, il va au parc, il s'amuse avec tout le reste.
Je pense que si nous sommes si pressés de renvoyer les enfants à l'école, ils sont moins susceptibles de pratiquer la distanciation sociale et de s'assurer qu'ils sont hygiéniques et se lavent les mains. Il est donc important qu'ils aient ce niveau de protection grâce au vaccin pour les protéger de ce virus qu'est le COVID-19.
Personnellement, je ne recommanderais pas de faire vacciner mon enfant. Mais en même temps, vous savez, je suppose que d'autres personnes peuvent faire ce qu'elles veulent pour leurs enfants. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas vraiment empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Mais personnellement, je ne ferais pas vacciner mon enfant.
Moi, je pense que c'est une bonne idée. À partir du moment où c'est recommandé par les institutions scientifiques de ce pays, moi, je crois en ce qu'ils disent. C'est des gens sérieux et ils ont déjà, par le passé, trouvé beaucoup de vaccins qui se sont avérés extrêmement efficaces contre le polio, contre le sida, contre d'autres pandémies et d'autres maladies graves. Et donc, je ne vois pas de raison du tout pour mettre en cause leur conseil scientifique et leur point de vue scientifique. Ah, j'hésiterai pas du tout. Si c'est recommandé par les institutions scientifiques et les centres de recherche ici, je n'ai aucun problème avec ça. Franchement, je pense pas à la théorie du complot, etc.
Saviez-vous que l'eau représente 50 à 70% de notre poids corporel? Les experts disent que nous perdons de l'eau par la transpiration, l'urine, la respiration et les selles, et le corps dépend de l'eau pour survivre. Alors, consommez-vous assez d'eau? Eh bien, vous avez peut-être entendu dire qu'il est conseillé de boire 8 verres d'eau par jour. Selon la Mayo Clinic, ici aux États-Unis, la plupart des personnes en bonne santé peuvent s'hydrater en buvant de l'eau et d'autres liquides chaque fois qu'elles ont soif. Pour d'autres personnes, moins de 8 verres d'eau par jour peuvent suffire. Mais certains, en revanche, peuvent avoir besoin de plus d'eau. Les Académies nationales des sciences de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis recommandent aux hommes de boire environ 3,7 litres de liquide par jour et aux femmes environ 2,7 litres par jour. Ces directives s'appliquent aux liquides tels que l'eau, les autres boissons et les repas. Alors, allez-y et assurez-vous de rester hydraté.
Nous voici au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Nous avions reçu le docteur Maurice Soungou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a expliqué, entre autres, quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et le bébé, la prise en charge, mais aussi et surtout les mesures préventives contre l'éclampsie. Dans la deuxième partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Nino Moudou. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Toitalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé...